On peut déjà commencer avec une introduction. Bienvenue. On peut déjà lire Apocalypse 14 ensemble. Les 5 premiers versets. Durant cette conférence, les frères vont partager sur une petite portion des versets 1 à 5. Au premier verset, devrait être d'avoir son nom. Dans le premier verset, l'aspect principal, c'est d'avoir son nom et le nom de son Père écrit sur nos fronts. On ne peut pas rater ça. Avoir son nom, le nom de l'agneau et de son Père écrit sur nos fronts. On peut alterner les frères et les sœurs. D'abord les sœurs au verset 1. Et le dernier tous ensemble. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Seigneur, nous te demandons de nous donner à tous un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre cette magnifique vision dans Apocalypse 14 et pour appliquer ces versets dans notre vie quotidienne. Oui, Seigneur. Je veux juste rappeler à tout le monde que la Bible est un livre merveilleux. C'est pourquoi c'est appelé le livre. Le mot Bible veut dire le livre. Et ce livre est la parole vivante de Dieu. C'est pas juste un livre normal, comme n'importe qui. C'est pas juste un livre qu'on lit encore et encore, mais un livre normal. C'est comme Genèse, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire les origines. Les origines de quoi? Tout. Genèse est le commencement de la Bible. C'est pour ça qu'il commence au verset 1 avec « Au commencement, Dieu ». Créa les cieux et la terre. Il a tout créé. C'est un livre magnifique qui nous montre que Dieu est au commencement de toute chose. Sans lui, il n'y aurait rien dans cet univers. Mais on sait tous que Dieu est un Dieu magnifique. Donc il y a un début et il y a une fin. Quelle est la fin? Révélation. Apocalypse veut dire révélation. Peux-tu imaginer un livre qui aurait un début mais pas de fin? Le début est très important. Mais encore plus important, c'est la fin. Je me souviens quand je lis un livre, au début je lis le résumé. Mais je suis tellement curieuse de connaître la fin que je saute à la fin en général. Sinon entre deux c'est trop long. Et ensuite, quand tu connais le début et tu connais la fin, alors là, tu apprécies le mieux. Mais c'est important de connaître la fin. Malheureusement, beaucoup de croyants ont lu la fin, ont lu le milieu, ont lu le début, mais ils ont trop peur de la fin parce qu'elle est difficile à comprendre. Mais en réalité, c'est la chose la plus importante. La fin est la partie la plus importante. Donc tu as besoin de connaître la fin. Dans ce livre de Apocalypse, il y a une magnifique fin. Ça parle de ce que Dieu a prévu. Mais on doit réaliser que Dieu est Dieu. En particulier si on va dans Ésaïe. Au travers d'Ésaïe, on voit 6 à 7 chapitres. Où il dit déjà ce qui allait arriver à la fin. Seul l'auteur du livre savait ce qu'il allait arriver. Et s'il n'avait pas écrit ce livre, comment le saurait-on? La fin est là. Si on n'avait pas la fin du livre, comment est-ce qu'on pourrait la savoir? S'il y a un livre sans fin, alors tout le monde le lit, puis à la fin, on ne sait pas quel est le résultat de tout ce qui a été écrit dans ce livre. Mais Dieu est le Dieu qui connaît la fin depuis le commencement. Sinon, on n'aurait pas le livre d'Apocalypse. Il y a 2000 ans, Jean a eu cette révélation. Peux-tu imaginer, il y a 2000 ans, Dieu a révélé à Jean ce qui allait arriver dans 2000 ans. Est-ce que tu sais ce qui va arriver la semaine prochaine? Qu'en est-il de demain? On a un planning, mais qui sait ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Cet après-midi, personne ne sait. Mais peux-tu imaginer, il y a 2000 ans, Dieu a dit à Jean ce qui allait arriver dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi dans Ésaïe, Dieu donne un défi au sujet des idoles. Chaque fois, il demande, est-ce que ton idole peut dire ce qui arrivera dans le futur? Non. Pour montrer qu'il est le seul vrai Dieu. Dieu sait ce qui va arriver. Dieu a été si spécifique. Je ne peux pas trop aller dans le détail ce matin. C'est juste une brève introduction. Dieu savait toute chose avant que ça arrive. dans Apocalypse par exemple, Apocalypse 2 et 3. Dieu a montré le développement historique depuis le jour 1 à la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Qui peut te dire tout ça? Qu'en est-il du livre de Daniel avec Daniel 3? Un rêve. En un rêve, il a révélé à Daniel et à Nebuchadnezzar toute l'histoire du monde, du royaume babylonien jusqu'aux Perses, les Romains et encore jusqu'à aujourd'hui, avec la démocratie et même la fin de la démocratie. Et les dernières années avec la colère de Dieu et le jugement. C'était il y a environ 6 000 ans. Oui, 6 000 ans. Qu'il a révélé l'histoire du monde. Qui peut faire cela? C'est Dieu. Tu veux savoir ce qui va se passer demain? Il vaut mieux que tu lise la parole de Dieu. Tu veux savoir ton futur éternel? Il vaut mieux que tu lises la parole de Dieu. Parce que ça te concerne, toi et moi et chacun de nous. Il nous dit dans Apocalypse quelle sera vraiment la fin. Et aujourd'hui, tous les chrétiens croient, oh, on est sauvés et puis on sera tous enlevés. C'est ce qui a été enseigné. Si tu es chrétien, tu es sauvé et tu seras enlevé. C'est ce que tout le monde croit. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit vraiment pas ça. Pas juste dans Apocalypse, mais aussi dans Matthieu. Il parle des 10 vierges. Matthieu 25. Il parle des vierges, c'est toutes des chrétiennes, des chrétiens et. Seules celles qui ont une réserve d'huile entrent au festin des noces. Mais les 10 sont des chrétiens, sinon elles ne seraient pas appelées des vierges. Mais il y en a 5 sages et 5 folles. Et ensuite, l'époux arrive. Les 5 sages entrent et les 5 autres n'entrent pas. Elles ratent le mariage. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que tous les chrétiens seront là? Non, pas du tout. Juste par cette parabole, le Seigneur nous dit ce que le futur va être. Timo, dis-moi, quelle sorte de vierge veux-tu être? Évidemment, une sage. Les 5 folles ont juste cru ce qu'on leur a dit, qu'il suffisait d'être sauvées, d'avoir le salut initial. J'ai pas compris dans quel chapitre. Est-ce qu'il dit que tous vont être enlevés? Ah, dans l'Apocalypse. Est-ce que tous sont enlevés? Non, il y a seulement l'enfant, le fils premier-né qui est enlevé, pas sa mère. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est très clair. Combien de chrétiens sont sur la terre aujourd'hui? Juste 144 000. Euh, 144 millions? 1 000. C'est peut-être plutôt 1,4 billion. Million. Alors pourquoi il n'y en a que 144 000 qui se tiennent avec l'agneau sur la montagne de Sion? Qu'est-ce que ça te dit? Il y en a seulement quelques-uns. Est-ce que tu veux en faire partie? Oui, vraiment. Je crois que c'est pour ça que tu es venu à la conférence. Parce que c'est magnifique. Livre nous dit comment on peut faire partie de ces 144 000. Seigneur nous montre tout le développement, toute l'histoire du monde. Quand j'étais jeune, le Seigneur a ouvert mes yeux sur le livre de Daniel. Ça m'a complètement convaincue de la parole de Dieu, que la Bible était la parole de Dieu, parce que personne pourrait savoir ce qui va se passer. Et quand il dit ce qui va se passer déjà à la première venue du Seigneur, ça m'a frappé à quel point c'était déjà décrit avant sa première venue en détail. Je veux connaître ce Dieu. Cette portion en particulier au chapitre 14, nous dit ce qui va se passer quand le Seigneur vient. Seuls 144 000 vont être enlevés. Les autres devront traverser le jour de la colère de Dieu. Comment le sait-on? Où est-ce que c'est écrit? Je vais demander à Timo de m'aider. Où sont écrites ces choses? Dans Apocalypse 12 et 13. La femme est envoyée dans le désert et Satan est si en colère qu'il va dans le désert. Il y a encore ceux qui ont la loi de Dieu. Donc il y a les Juifs aussi. C'est ceux qui ont la loi et ceux qui ont le témoignage de Jésus. Donc c'est les Juifs et les chrétiens. Ils sont amenés dans le désert. S'ils avaient été enlevés et qu'ils étaient en attente dans les cieux, alors il n'aurait rien à faire avec le dragon. Mais le dragon a été envoyé sur la terre, donc ça montre que c'est sur cette terre que ça va se passer. Et ce dragon, tu peux pas lui échapper, il peut même sauter plus haut que toi. Et on voit au chapitre 13, quand la bête apparaît, on voit qu'elle fait la guerre aux saints. On voit qu'elle fait la guerre au sein. Est-ce que tu crois qu'elle va les vaincre? Non, c'est impossible. Ne crois pas que dans les 3 ans et demi de la fin, les chrétiens vont juste être là et attendre. Non, soit ils vont fuir, soit ils vont être tués. Où vas-tu et où veux-tu être? Qu'est-ce qui est le mieux? Je vais laisser notre frère Georges partager, commencer de partager de comment on peut faire partie de ces 144 000. Je veux juste vous donner juste vous partager vraiment qu'on doit être sanctifié entièrement, transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu et être perfectionné. George, tu peux commencer, partager. Le Seigneur pour cette magnifique vision que nous avons dans Apocalypse 14 sur le mont Sion. On voit que l'agneau est debout, il n'est pas assis, il est debout, prêt à l'action. Dieu est assis sur le trône, prêt à faire quelque chose de grand depuis son trône. Apocalypse 5, quand on voit que personne n'était digne de prendre le livre ou de le regarder et d'ouvrir les sceaux. Et là, on voit le Seigneur qui se tient debout, qui est prêt à prendre ce livre et à en ouvrir les sceaux. Donc le Seigneur était là, debout, prêt à commencer son ministère céleste. Et là, à nouveau, on voit le Seigneur qui est prêt pour l'action. Il a été seul sur le trône pendant 2000 ans. Et il attend vraiment ce moment où il aura une armée avec lui. Pas juste seul. Il aurait pu le faire seul. Mais pour finir le travail, il veut son peuple. Il veut pas faire ça seul, il aurait pu. Il était le seul qualifié pour être notre sauveur, pour détruire Satan. Mais maintenant, pour finir le travail, il a besoin de nous. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. Pour que l'homme, pas juste l'homme lui-même, mais ceux qu'il a rachetés, accomplissent vraiment le plan de Dieu. On connaît ce chant, un homme dans la gloire. Et maintenant, on peut voir qu'il y a beaucoup d'hommes dans la gloire. Pas uniquement Christ lui-même, mais nous aussi avec lui. J'espère que nous avons tous ce désir de faire partie de ces 144 000 pour finir le travail. Comme on a entendu, il n'est pas juste l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Oui, le Seigneur. On a besoin de voir aussi la voie dans la voix de ceux qui veillent. Le Seigneur parle toujours. Il y a juste une voix ici. Et c'est la voix de comme un bruit de grosses eaux. La voix du Seigneur a pour but de nous réveiller. Il joue de la harpe, prêt à célébrer le fait que Dieu est prêt à terminer son travail. Et ensuite, on a les 144 000 qui chantent un chant nouveau. Il se passe tant de choses sur le mont Sion, c'est jamais ennuyeux d'être là. Si tout est si calme, tu n'es probablement pas à Sion. Beaucoup de choses qui se passent là. Mais qui sont ces 144 000? Comme ça a déjà été mentionné, c'est ceux qui ont été enlevés avant le jour de la colère de Dieu. C'est les chrétiens vivants. Ce sont ceux auxquels Dieu a promis dans Apocalypse 10, et c'est bon pour les nouveaux que nous lisions à nouveau. Le Seigneur a promis à l'église à Philadelphie. Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Parce qu'on a reçu le Seigneur, il va prendre soin de nous, mais c'est pour ceux qui persévèrent, ceux qui gardent la parole de la persévérance, pas juste ceux qui sont sauvés, mais ceux qui gardent la parole de la persévérance. Ne faisons pas d'erreur, pas tous les croyants vont être enlevés, comme il l'a déjà montré très clairement. C'est quelque chose que les chrétiens pendant des siècles ont cru, c'est que tous les croyants seraient enlevés. Mais comme ça a été mentionné dans le chapitre 13, on voit que la bête fait la guerre aux saints. Ça veut dire qu'il y a encore des saints sur la terre. J'espère vraiment que nous allons échapper à ça. J'ai relu Apocalypse ces derniers temps. Quand je suis arrivée au chapitre 13, j'ai vraiment demandé au Seigneur de nous protéger de ça. On n'a vraiment pas envie d'être là, à ce moment-là, quand ça va se passer. Et ensuite, on voit les prémices pour l'appréciation du Père. De nouveau, les prémices sont ceux qui ont mûri avant le reste de la récolte. Et ils sont récoltés bien avant. Si on n'est pas mûr, on ne va pas être pris. Le Seigneur ne veut pas nous apprécier. Donc on ne va pas être enlevé. Pour l'appréciation du Père. Les prémices sont pour le Père. De nouveau, ça prouve que pas tous les chrétiens vont être enlevés. Parce que nous ne sommes pas appréciables pour le Père. Et ensuite, ces 144 000, c'est en fait l'épouse qui s'est préparée. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 19. Il représente le peuple de Dieu pour être l'épouse de Dieu, l'épouse de Christ, dans un magnifique mariage. Il dit, les noces de l'agneau sont venues. Donc ces 144 000 vont être l'épouse de Christ en ce temps. Et on voit au verset 14, Apocalypse 19, 14, les armées qui sont dans le ciel. On voit aussi, on peut le lire ensemble, Apocalypse 19, 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. On voit par là que c'est vraiment l'épouse. Apocalypse 19, 14. Oui, le Seigneur. L'épouse est aussi l'armée. Elle porte ces mêmes ornements. Peux-tu imaginer cette robe blanche magnifique? Donc là, on voit que l'épouse est aussi les armées qui vont finalement détruire les armées. Toutes les armées du monde qui combattront pour la bête. De nouveau, là il dit aussi que ce sont ceux qui vont régner sur les nations. Comme il l'a promis. Je sais pas où. Il a promis qu'ils allaient régner aussi. Nous allons régner sur les nations avec une verge de fer. C'est une scène magnifique là dans Apocalypse 14. J'espère que nous avons lu tous ces versets et que ça nous motive et nous inspire et que ça va vraiment nous inspirer pour faire partie de ces 144 000 qui vont être enlevés au trône. Pour faire partie de ça. Pour faire partie de ce groupe de personnes, nous avons besoin de déjà faire être au Mont Sion aujourd'hui. Devons réaliser aujourd'hui que l'Église est déjà cette épouse. On voit dans Hébreux 12, au Mont Sion. L'Église aujourd'hui est déjà le Mont Sion. Nous n'avons pas toujours ce concept que Sion est le Mont Sion. C'est au Mont Sion que David a soumis tous ses ennemis. L'Église est le Mont Sion, le royaume de Dieu. La première chose que Dieu a révélée à Pierre, c'est que c'est l'Église et puis que le royaume des ténèbres et le séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Donc, la première révélation de l'Église, c'est le Mont Sion. C'est le royaume de Dieu. Nous n'avons pas ce concept aujourd'hui. Cette réalisation. Que l'Église est le Mont Sion. Pour nous, c'est juste un lieu où nous avons de la bonne communion. Nous étudions l'Église. Nous venons à des réunions. Nous apprécions l'amour et le soin des frères et sœurs. Mais est-ce qu'on a vraiment le concept qu'aujourd'hui, l'Église est le Mont Sion et qu'on doit déjà aujourd'hui tenir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que de toutes les réunions, la réunion de prière est toujours la plus déserte? C'est parce que nous n'avons pas le concept que dans nos réunions de prière, nous combattons l'ennemi et que nous lions les puissances des ténèbres. Dans Éphésiens 6, peut-être nous pouvons lire. Éphésiens est un livre au sujet de l'Église. Si vous et moi, on l'avait écrit, on se serait sûrement arrêté au chapitre 5. Elle est l'Église de Dieu. Son Église. Mais Paul a continué. Au chapitre 6, ici on lit verset 10, on dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » On a besoin d'être fort dans son armée aujourd'hui. Verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui, aujourd'hui, si nous voulons nous tenir avec le Seigneur, ce jour-là, nous devons déjà aujourd'hui nous tenir avec lui. Sur ce mont Sion ici sur terre, qui est l'Église, devons nous tenir là pour combattre les œuvres de l'ennemi. Mais nous n'avons pas cette conscience, cette réalisation. 2 Thessaloniciens 2:7 dit que nous sommes ici pour limiter les actions de l'impiété. Et si nous sommes repris, alors Satan aura les mains libres pour faire ce qu'il veut. C'est pourquoi ça va être terrible d'être laissé derrière, d'être laissé sur terre pour le jour de la colère de Dieu. Parce qu'il n'y a plus rien, plus personne qui pourra restreindre l'ennemi. Mais aujourd'hui, en tant que l'Église, en tant que mon Sion aujourd'hui, nous résistons, nous limitons l'ennemi. Pourquoi ? Pensez-vous qu'il a été capable de faire tant de dommages aux églises et dans le monde? Comment a-t-il pu corrompre et détruire l'humanité si violemment? Parce que l'Église, les saints ne sont pas conscients, nous sommes mon Sion. Et nous le laissons faire. Nous le laissons faire ses œuvres méchantes. Dieu a vraiment besoin d'une armée. On peut lire dans le psaume 110. Il parle de mon Sion. Verset 1, il dit: Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une arrosée. Voilà que le Seigneur veut faire de ses ennemis son marchepied. Mais il le fait par Sion, au travers de l'Église. Il veut régner au milieu de ses ennemis par le mont Sion. Ton peuple devrait être volontaire en anglais. Sommes-nous volontaires pour faire partie de l'armée? J'espère que le Seigneur peut gagner beaucoup plus de volontaires, en particulier les jeunes. Le Seigneur a besoin de la jeunesse. Malheureusement, nos jeunes sont si passifs. Ils pensent, oh, je suis trop jeune. Aujourd'hui, si tu regardes les nations du monde, elles sont surtout des jeunes. Mais tu regardes à Sion, il y a peu de jeunes. Il y a peu de volontaires parmi eux. Seigneur veut écraser la tête de Satan sous nos pieds, comme il dit dans Romains. Tout est sous ses pieds aujourd'hui, mais il a besoin de nous pour exprimer sa puissance. Sans nous, il ne peut rien faire. Il a besoin de nous pour combattre. Nous avons besoin de réaliser que nous ne devrions pas être complaisants aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, tellement d'iniquité, de corruption, d'injustice. L'ennemi est vraiment en train de détruire l'homme. L'ennemi est capable de faire tellement sans tellement de puissance parce que en fait nous ne lui tenons pas tête. Nous sommes passifs. Nous avons besoin de lui résister. On ne devrait pas dire oh, je ne me sens pas si concernée. On se sent peu concerné aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. Oh, le Seigneur va prendre soin de tout ça. Le Seigneur attend qu'on collabore avec lui. Il va le faire, mais il attend notre collaboration. Nous avons besoin de nous sentir concernés par ce qui se passe. Nous avons besoin de réagir quand nous voyons les nouvelles et voyons ce que l'ennemi fait aujourd'hui pour corrompre les hommes, pour détruire l'humanité, pour pervertir les enfants. Dans les écoles, avec tous ces concepts, beaucoup de nous sommes indifférents à ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas bon, ça nous concerne. Souvent nous pensons, oh, tant que nous avons notre travail, notre maison, notre voiture, oh, tant que nous pouvons profiter de la vie, ça va. Non, c'est pas bon. L'ennemi fait des choses de plus en plus mauvaises. En tant que le mont Sion, aujourd'hui, nous devons nous tenir devant le Seigneur. Que le Seigneur nous réveille pour que nous combattions vraiment. Que nous réalisions que l'Église, c'est le mont Sion. Nous avons besoin de lier l'ennemi, toutes ses activités. Pour que nous ayons la puissance de combattre l'ennemi. Et il dit que dans Sion, nous recevons un royaume inébranlable. Et là, Sion, nous servons le Seigneur de manière acceptable et avec déférence. Il n'est pas juste notre sauveur. Il n'est pas juste notre... notre souverain sacrificateur, mais aussi notre roi, comme on l'a chanté aussi. Malheureusement, nous sommes très légers dans la vie de l'Église. Quand nous allons au travail, chaque jour, on n'y va pas de manière légère. On y va de manière à vérifier que nous fassions bien notre travail pour plaire à notre chef. On suit les règles. On ne va pas juste au travail comme on a envie. Mais malheureusement, dans l'Église, nous sommes légers. Même la manière dont nous venons aux réunions, non préparés, en retard. On ne va pas en retard au travail. Si le chef te dit ce sera à 5 heures le matin, tu y es. Par contre, pour la vie de l'Église, d'être à 10 heures à la réunion, c'est déjà trop tôt pour nous. Parce qu'on n'a pas le concept que l'Église, c'est le Mont Sion, que nous nous y rencontrons avec le grand roi, que c'est un festin. Que c'est un festin qui est préparé pour le roi. On ne devrait pas venir les mains vides. On a vraiment besoin, si on apprendra à servir le roi de manière acceptable. Est-ce qu'on a vraiment ce concept? Si c'était le cas, je crois que nos réunions seraient bien différentes. Nos réunions de prière, entre autres. Un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, ben, la réunion de prière est si ennuyeuse. » Mais en fait, c'est parce que nous ne combattons pas. Je pense pas que si vraiment on combattait, tu pourrais trouver la réunion ennuyeuse. Mais au contraire, tu serais motivé à combattre et à gagner. Pourquoi parfois nos réunions de prière semblent si ennuyeuses? Parce qu'on prie pour ci, pour ça, pour les nouveaux, pour ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier pour ces choses, mais à la réunion de prière de l'Église, nous devons combattre. Nous devons vraiment tenir pour le Seigneur contre l'ennemi. Nous vraiment combattre. Si nous prions d'une telle manière, l'ennemi va être limité dans ses actions. Nous sommes au Mont Sion. Et pour être qualifiés, pour être là, pour nous tenir sur le Mont Sion, aujourd'hui dans la vie de l'Église, nous ne devrions pas être assoupis. Et rester dans notre zone de confort. Nous devrions être actifs. Tenir ferme, combattre l'ennemi. Servir le Seigneur de manière acceptable, avec déférence. J'espère que notre concept va changer. Notre concept pour la vie de l'Église. On ne peut pas y aller de manière complaisante. On a besoin d'être entraîné. Le Seigneur a besoin d'une armée pour combattre l'ennemi, déjà aujourd'hui. Et ensuite, quand il revient, pour que nous soyons qualifiés. J'espère que ça peut nous inspirer d'être déjà aujourd'hui dans ce Mont-Sion. Amen. Je crois qu'il a dit qu'on est tous invités à combattre, même les sœurs.
On doit tous prier, vraiment, comme étant dans un combat. Que les sœurs aussi ouvrent vraiment leur bouche pour combattre dans la prière. Merci Seigneur parce que nous sommes ton épouse. Aide-nous tous à réaliser que nous sommes dans ton armée, que nous soyons vraiment ces volontaires. Merci Seigneur de nous avoir appelés depuis le mont Sion. Que ton ennemi soit vraiment ton marchepied. Que nous apprenions vraiment à combattre dans les réunions de prière. Nous voulons être de ceux qui se tiennent vraiment avec toi sur le mont Sion. Nous voulons être actifs avec toi. Nous voulons être un avec toi pour prier vraiment pour ta victoire sur cette terre. Seigneur, faites-nous ces 144 000. Nous prions que tu continues d'ouvrir nos yeux, jour après jour. Nous voulons nous tenir avec toi. Prions que dans ces temps, tu gagnes beaucoup de volontaires. Gagne beaucoup de jeunes aussi. Seigneur, réveille-nous tous dans les églises. Réveille-nous tous pour que nous tenions ferme pour le mont Sion dans toutes les pièces, toutes les places où nous sommes. Pour que tu aies la victoire sur Satan. Qu'il soit restreint dans ses actions. Qu'il soit restreint par le mont Sion dans tout ce qu'il veut faire. Réveille-nous par cette parole et aide-nous à la prendre à cœur chaque jour. Que nous ne soyons pas légers. Nous voulons être plus sérieux au sujet de tes affaires, plus que de quoi que ce soit sur cette terre. Que tu sois vraiment notre offrande. Que chaque jour, nous soyons vraiment préoccupés par les affaires de notre Père. Donne-nous cette conscience que nous venons à Sion, la cité du grand roi. Nous tenons avec toi sur le mont Sion. Nous voulons résister à l'ennemi. Nous ne voulons pas être légers dans nos paroles et nos actions. Tu es l'agneau et nous tenons avec toi aujourd'hui sur le mont Sion. Amen. Celui qui garde mon nom jusqu'à la fin. Nous voulons être de tels vainqueurs. Nous te remercions pour une telle promesse que nous avons reçue.
Enseigne-nous comment régner aujourd'hui. Nous voulons te gagner sur le mont Sion aujourd'hui. J'aimerais lire le psaume 132. Mais depuis le verset 13, oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Psaume 132, 13 à 18. Mets tes ennemis à honte à Sion. Ainsi, Seigneur, tu as choisi Sion. Tu l'as choisi pour ton lieu de repos. Mets tes ennemis à honte. Allez.